לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. La première fille de ma vie, dans la rue je l'ai suivie en chantant. Quand elle s'est déshabillée, j'ai joué le vieil habitué en chantant. J'étais si content de moi que j'ai fait l'amour 10 fois en chantant. Mais je ne peux pas m'expliquer qu'au matin elle m'ait quitté enchantée. L'amour c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Tous les hommes vont en galère, à la pêche ou à la guerre en chantant. La fleur au bout du fusil, la victoire se gagne aussi en chantant. On ne parle à Jéhovah, à Jupiter, à Bouddha qu'en chantant. Quelles que soient nos opinions, on fait sa révolution en chanson. Le monde est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Puisqu'il faut mourir enfin, que ce soit côté jardin en chantant. Si ma femme a de la peine, que mes enfants la soutiennent en chantant. Quand j'irai revoir mon père qui m'attend les bras ouverts en chantant. J'aimerais que sur la terre tous mes bons copains m'enterrent en chantant. La mort c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de con en chanson.
That's the only reason that Israel can do what they're doing. I'm not against Israel. I'm not against the Jewish people. I'm against the violation of human rights.
Ce que vous venez d'entendre, ce sont les voix des personnes manifestant contre l'action israélienne dans la bande de Gaza. De manière généralisée, les manifestations embrase en ce moment les différentes universités américaines. La présidente de l'université de Columbia, Nema Tchafik, a appelé à aller de l'avant avec un plan visant à démanteler le campement anti-israélien que les manifestants pro-palestiniens ont installé sur le campus de Manhattan, affirmant qu'elle a fixé jusqu'à minuit ce soir leur limite à laquelle les organisateurs étudiants devaient débarrasser les lieux. Dans une lettre adressée aux autres membres de la communauté de Columbia, Tchafik a déclaré qu'elle soutenait pleinement l'importance de la liberté d'expression, respectait le droit de manifester et reconnaissait que de nombreux manifestants s'étaient comportés de manière pacifique. Cependant, a-t-elle ajouté, le campement soulève de sérieux problèmes de sécurité, perturbe la vie sur le campus et a créé un environnement tendu et parfois hostile pour de nombreux membres de notre communauté. Inspiré par les manifestations en cours et irrité par l'arrestation la semaine dernière de plus de 100 étudiants à l'université de Columbia, des étudiants du Massachusetts à la Californie se rassemblent désormais par centaines sur les campus, installant des camps de tentes et s'engageant à rester sur place jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Alors, quelles sont leurs revendications? Apparemment, les manifestants voudraient que les dotations universitaires se désinvestissent des intérêts israéliens et que les États-Unis mettent fin ou du moins conditionnent l'aide militaire israélienne et que le sort des Palestiniens soit amélioré. Ce soir, nous recevons Eden Seton. Eden est étudiante aux États-Unis et elle va nous faire part de son expérience d'étudiante franco-israélienne dans cet environnement de plus en plus peut-être hostile. Eden, bonsoir.
Bonsoir, comment ça va?
Ça va et vous?
Ça va.
Bah, on va tout de suite parler de comment ça va. Déjà, je voulais vous remercier d'avoir accepté l'invitation à notre journal. Est-ce que vous pouvez en quelques mots d'abord vous présenter, nous dire un peu d'où vous venez, où vous avez grandi, qu'est-ce que vous étudiez, où vous étudiez, etc.
Bien sûr. Alors, je m'appelle Eden. J'ai grandi à Tel Aviv, en Israël. Je suis née à un père français. Mais donc j'ai jamais habité en France, je suis juste française comme ça.
Et francophone tout de même, hein. Vous avez un très beau français.
Ouais, francophone, exact. Exactement. Et j'ai fait l'armée en Israël, j'ai fait toutes mes études là, j'ai fait mes études jusqu'au lycée. Et puis j'ai venu ici pour faire des études en music business à Drexel en Philadelphie. Mm-hmm. À Philadelphie. Et oui, c'est ça, c'est où je suis.
Alors, dites-nous, maintenant, vous, donc, sur votre campus en Philadelphie, est-ce que vous avez vu ou vous savez qu'il y a des manifestations pro-palestiniennes de l'envergure, un peu comme celle qu'il y a à Columbia?
Alors, il faut noter quelque chose qui est très important. Ce qui se passe à Columbia, c'est très spécial. Chez nous, en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a des manifestations, c'est très hostile pour les Israéliens et les Juifs. Comme Israélienne, c'est pas sympa sur le campus, mais c'est pas des camps avec des gens qui ne laissent pas rentrer dans les immeubles d'académie. Pas du tout le cas. Le président de l'université a très bien fait depuis le début à parler. C'est-à-dire, il a dit depuis le début qu'il va protéger toujours les étudiants juifs et israéliens et musulmans aussi pour leur laisser faire leur vie religieuse et académique free as always, mm-hmm. comme toujours.
Aussi libre, alors, aussi libre qu'avant, quoi.
Mm-hmm. Oui, oui. C'était très important pour lui.
Et vous, est-ce que vous avez ressenti depuis combien de temps vous habitez aux États-Unis?
Deux ans.
Donc, vous êtes arrivé, vous avez commencé à étudier déjà avant le 7 octobre. Est-ce que vous remarquez une différence dans le rapport des autres étudiants à vous depuis le 7 octobre? Est-ce que votre vie a changé? Évidemment, en dehors du fait que le cœur est lourd depuis le 7 octobre, mais je veux dire votre vie universitaire et vos relations à vos camarades de classe.
Tu ne parles plus, on ne parle plus le français, le français libre sur le campus, parce que ça sent hostile en tout cas.
Vous avez eu des remarques quand vous avez parlé hébreu?
Oui, des remarques quand je parle hébreu et des gens sachent que je suis israélienne et que j'ai servi à l'armée. et ils ont arrêté de me parler. Tout à fait. De certains gens, pas tout le monde. Je dis que je suis française, je ne dis plus que je suis israélienne. C'est plus facile que c'est je peux simple. Parler le français, mais ouais, c'est pas normal. C'est-à-dire, ça ne doit pas être comme ça. C'est difficile.
Et est-ce que vous avez eu des discussions avec, parce que donc vous dites que chez vous il n'y a pas de manifestation comme à Colombia par exemple, mais est-ce que tout de même vous avez vu des événements et des actes qui étaient anti-sionistes mais en vérité antisémites?
C'est jamais anti-sioniste. C'est vraiment jamais seulement anti-sioniste. C'est toujours antisémite. C'est toujours contre les juifs. Il y avait un moment, il y a une semaine en fait, juste avant Pessah, qu'un groupe de 6 gens ont venu sur l'immeuble de Hillel, que c'est un immeuble juif, complètement. Il n'y a aucun rapport d'Israël. Et ils ont enlevé le nom du donateur de l'immeuble. La plaque, sa plaque.
Pourquoi ?
Et parce qu'il est juif, parce qu'il voulait pas supporter Israël, parce que qui sait. Juste, ils sont venus à 6 heures du mat, ils ont enlevé la plaque du donateur. Et le président il était très très clair. Il a dit qu'on n'accepte pas des choses comme ça, mais ça arrive. C'est-à-dire, c'est toujours toujours vers les juifs. C'est jamais juste vers les Israéliens. C'est ce qui est... Ouais.
Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a une importation du conflit et que les même si c'est pas forcément que les Israéliens méritent d'être attaqués, mais c'est vous dites qu'il n'y a pas de différenciation qui est faite en fait entre l'État d'Israël et les Juifs.
Et les Juifs. Non, non, non. Ils disent comme si c'est anti-sionisme, mais quand ils disent « fuck the Jews » ou quand ils mettent des swastikas partout dans le campus, c'est antisémite.
Et est-ce que vous avez vu en parallèle à cela des manifestations pro-israéliennes ? Est-ce que les Juifs et les Israéliens, ou même les personnes qui veulent apporter leur soutien à Israël, ou au fait que les otages doivent être leur soutien aux otages, par exemple, est-ce que vous avez vu des manifestations comme celle-ci sur votre campus ?
Alors, pas des manifestations. Je suis partie d'un groupe qui sont les étudiants qui supportent Israël. On a décidé qu'on va pas faire des manifestations, on va pas arrêter la rue, on va faire des prières dehors pour les otages et pour les soldats et pour notre pays qu'on aime, mais on va pas faire des manifestations violentes dans les rues parce que on veut pas montrer que c'est ça notre but.
Vous voulez apporter un message de paix et de calme.
Oui. Ouais.
Et est-ce que quand vous avez fait ces prières, vous avez eu des réactions qui pouvaient être violentes ? Comment les gens vous ont reçu ?
Non, 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 c'était assez calme. Et la police du campus nous garde toujours. Ils sont très, très vigilants à nous aider. Ils font un très bon travail. Donc, vraiment, Drexel font un très bon travail.
Donc ce que vous dites, c'est que globalement, la direction de l'université et l'administration sont quand même soucieux du bien-être des étudiants juifs et israéliens dans l'université.
Tout à fait, tout à fait. Et je pense que aussi à Colombie, le problème, c'est l'administration.
C'est-à-dire ?
Parce que les étudiants, ils savent pas tout ce qui se passe. Moi, comme israélienne, je peux avoir mes idées, mais je ne peux pas dire qu'est-ce qui est la vérité de tout le monde. Les étudiants ici, ils entendent qu'il y a un peuple pauvre qui est attaqué et ils veulent aider.
C'est ce qui semble logique, c'est ça.
Oui, et c'est normal. Et c'était comme ça avec les communistes aussi. C'est comme ça l'histoire. Mais quand l'administration n'arrête pas les manifestations violentes, on n'aura jamais, ça finira jamais. Finira jamais.
Donc, ce que vous voudriez, c'est que l'administration prenne ses responsabilités, notamment à Columbia et à d'autres universités où ça chauffe un peu plus.
Oui, tout à fait. Chez nous, c'est très important. Ils font un très bon travail.
Et est-ce que vous sentez que cet environnement très tendu peut le devenir encore plus? Est-ce qu'on peut arriver à une explosion? Comment vous voyez les prochains mois? Surtout avec l'opération Arafa qui va arriver probablement très bientôt.
Sans doute bientôt. Ouais. Je pense que dans des places comme Columbia, comme MIT, comme Harvard, que ça fait depuis le début qu'on voit que c'est un peu compliqué, ça va être très fort. Ça va devenir très violent. Je pense que j'espère que dans des campus comme à Drexel, ça sera pas aussi violent, même après une attaque sur Rafah. Et il faut dire aussi que j'espère que des gens innocents ne meurent pas non plus de aucun côté. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas cette guerre. Mm-hmm. Mais je pense que ici à Drexel, ça sera minimal. Ça sera minimal. Mm-hmm, mm-hmm. Pas comme à Columbia et les autres universités.
Alors, je vous ai posé surtout des questions qui parlent de la difficulté de la situation. Est-ce que vous auriez, comme ça, comme une dernière remarque à nous donner, quelque chose, un petit message d'espoir, peut-être une interaction qui vous a agréablement surpris, ou un soutien, ou une espèce d'image de fraternité que vous avez pu voir depuis le début de la guerre aux États-Unis?
C'est magnifique, en fait, que j'ai trouvé tous mes vraiment bons amis et bonnes amies avec des Juifs et d'autres Israéliens. Même si ce ne sont pas des gens que j'aurais été très bonne amie avec en Israël, on se garde et on s'occupe l'un de l'autre pour voir que tout le monde va bien. Et c'est une communauté tellement chaleureuse et qui accepte tout le monde. C'est vraiment génial. Et du Chabad, de Hillel et des étudiants et de l'administration, c'est quand tu veux accepter les gens, tu les acceptes, aucun rapport s'ils sont juifs ou chrétiens ou musulmans. Et les gens du Chabad, de Hillel ici à Drexel et même à Philadelphie, en gros, ils sont très, très, très gentils.
Je suis heureuse de l'entendre.
Très invitant.
Eden Sutton, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos études et on espère que vous allez vous sentir en sécurité là où vous êtes.
Ça ressemble à la Toscane, douce et belle de Vinci. Les sages et beaux paysages font les hommes sages aussi. Ça ressemble à des images, aux saisons tièdes, aux beaux jours, au silence après l'orage, au doux toucher du velours. C'est un peu comme ces musiques qu'on entend sans écouter, ces choses qui n'existent jamais tant que le manque qu'elles ont laissé. Ça ressemble à ces grandes routes, sans virage, sans détour. La Dolce Vita sans doute, mais en tout cas c'est pas de l'amour. À ces pays qu'on signe un jour, juste au prix de nos jeunesses, sans trompette ni tambour, c'est plein de baisers, caresses, plein de mots sucrés d'enfants, attestation de tendresse, rituel rassurant, harmonie. Exprimer tout ce que c'est un peu tout ça, tour à tour, mais en tout cas, c'est pas l'amour.
Il y a bien des villes sans béto et sans avis. Pourquoi pas des villes sans cri? Et qu'on soit contre ou qu'on soit pour. En tout cas.
Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Raoul Spiber, enseignant toranique et éducateur, qui va nous parler de la fête de Pessah qui aura lieu donc demain soir. Raoul, merci beaucoup d'être de nouveau avec nous pour une nouvelle interview sur les ondes de Cannes en français.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'inviter régulièrement à communiquer, à partager, puisque c'est ce que les enseignants aiment faire, c'est de partager avec... le plus grand nombre des sujets, des idées, des questions surtout.
Exactement. Alors Raoul, comme on vient de le rappeler, demain c'est la fête de Pessah, c'est la Pâque juive, la fête de la délivrance, là où tout a commencé pour le peuple juif, donc de l'esclavage à la liberté, de l'ombre à la lumière. Comment pouvons-nous fêter la liberté cette année, alors que nous sommes toujours en guerre et alors que nos frères sont toujours prisonniers du Hamas à Gaza?
Bien, c'est une excellente question. C'est une tellement forte question qu'elle a accompagné toute l'histoire juive. On peut dire que depuis la sortie d'Égypte, presque à chaque génération, les grands hommes d'Israël se sont demandé « Mais qu'est-ce que c'est que cette sortie d'Égypte pour nous aujourd'hui ? Comment pouvons-nous fêter Pessah ? Eux sont sortis d'Égypte, mais nous ?» Non seulement dans les différents exils, mais on trouve même à l'époque des Shoftim, des juges comme Gidon qui se demandent quelle est cette pertinence de la sortie d'Égypte. Et voilà, on est ici en Eretz Israël et il y a les ennemis qui viennent et qui nous dominent et qui nous prennent nos récoltes, etc. Où est la délivrance? Où est la puissance d'Hachem qui s'exprime dans la sortie d'Égypte? Cette question, elle a jalonné l'histoire juive. Et la force du peuple juif, c'est de la surmonter. Non pas d'y répondre pour éteindre la question, mais pour l'entendre profondément. J'ai l'habitude, quand je me prépare à Pessah, quand je discute avec mes élèves, de rapporter un texte du Rav Oshri, celui qui était, peut-être vous avez entendu parler, celui qui était le Dayan de Kovno, qui était en Lituanie pendant l'occupation nazie, qui a refusé de se sauver pour rester avec les autres, qui a été déporté à Auschwitz, et qui a rédigé après la guerre, chez Lot Mima Makim, les questions dans l'abîme, les questions qu'on lui posait dans le cœur de l'abîme à Auschwitz. Et des questions terribles qu'on pose où des gens peuvent sauver leur vie en exposant quelqu'un, sauver leur fils à la place de quelqu'un d'autre, tout toutes sortes de questions qui sont vraiment des dilemmes terribles. Et on voit comment les gens, au cœur du mal, s'interrogent sur l'attitude juste à avoir jusqu'au bout. Et parmi eux, il y en a un qui demande au Rav Oshri, je fais en secret les prières du matin, mais il y a une bracha que je ne peux pas faire. La bénédiction que nous récitons chaque matin, où nous remercions Hachem, Baruch Ata Hachem, Elokeinu Melech Haolam, Shelo Asani Aved. Merci Hachem de ne pas m'avoir fait esclave. Et disent les gens au milieu de l'enfer, ils disent, mais on ne peut pas dire qu'on n'est pas esclave, on est des esclaves. Et même on est des esclaves, la pire est faite, parce que les esclaves, en général, dans l'Antiquité, il ne faut pas s'imaginer qu'ils sont toujours dans une situation terrible. Les esclaves, c'est en fait les forces de travail de l'époque disponibles. Donc en général, on les entretient pour garder leur force de travail. Et nous, on est utilisés à mort. On n'est pas respectés, même pas comme des animaux. Mmh. On travaille à l'épuisement. Et comment peut-on dire qu'on n'est pas esclave? Et alors, le Rav Oshri est un érudit, donc il a tous les textes en tête et il cherche la réponse appropriée. Et il se rappelle en plein abîme, il se rappelle de l'intérêt du Maharal de Prague, où le Maharal de Prague répond à des gens qui souffrent de la même façon. Et il leur dit, mais justement, la liberté de Mitzrayim, c'est une liberté de l'âme, c'est un combat de l'homme. C'est un combat de l'homme qui affirme, je ne suis pas ce que toi tu veux faire de moi. Toi tu veux faire de moi un esclave, mais Akadosh Baruch Hu m'a fait libre. Et moi j'obéis, je suis serviteur d'Hachem.
Ah, c'est incroyable. Depuis, c'est une magnifique réponse.
Depuis la sortie d'Égypte, les Bnei Israël disent au monde, l'homme n'appartient pas à l'homme. L'homme est unique et il n'appartient qu'à Hachem. Il est sujet d'Hachem et libre par rapport aux autres hommes. Et même si toi, tu veux faire de moi un esclave, tu ne peux pas. Tu peux que agir sur mon corps. Mais quand moi, je dois prendre une décision, par exemple, une décision de savoir si je dois, dans cette situation, respecter la loi ou transgresser la loi, je réfléchis pour savoir ce que la halakha me demande, ce que la loi juive me demande. Et quand elle me dit que je dois sauver ma vie parce que la vie est sacrée, et manger quelque chose de pas cachère, je n'obéis pas aux nazis, j'obéis à la loi. Et quand la loi me dit, oui, mais tu dois pas sauver ta vie aux dépens de la vie d'un autre, d'un innocent, alors j'obéis pas non plus aux nazis, j'obéis encore à Hachem, j'obéis à la loi. Et le juif, dans toutes les situations de l'histoire, il a sauvegardé en lui cette liberté intérieure, cette liberté de l'âme. Et j'en reviens à la question que vous avez posée le soir de Pessah. C'est cette liberté de l'âme qu'il faut faire luire. Parce que tous les textes disent « Hayav Adam nirot et atzmo » ou « Leharot et atzmo » un homme doit à la fois voir et montrer qu'il est sorti d'Israël. Il ne s'agit pas de faire du théâtre, il s'agit de faire luire en nous la dimension de liberté, cette capacité à être des hommes libres dans toutes les situations, cette capacité à ne pas être petit, cette obligation d'affirmer cette liberté et de la transmettre.
Alors justement, Raoul, on voulait vous poser cette question par rapport au levain, au chametz, à tout ce qui... Donc quel est le rapport entre cette obligation de manger de la matzah, donc le pain du pauvre, l'interdiction du chametz, donc du levain, et la liberté que l'on célèbre à ce soir de Pessah?
Eh bien, précisément, c'est un sujet très important et je suis content qu'on en parle. Ce soir, on va faire la bdikat hametz. On va rechercher le hametz dans tous les coins et où ça paraît, on va dire, une attitude un petit peu obsessionnelle de chercher des miettes un peu partout. L'interdit de posséder du hametz, c'est un interdit très spécial puisque c'est le seul interdit alimentaire qu'on ne doit ni manger, ni tirer profit, ni même possédé. Ouais. Il n'y a pas d'équivalent dans les interdits alimentaires. Le seul interdit où on a la même chose, et l'interdit possédé, c'est par rapport à l'idolâtrie. C'est-à-dire, quel est le rapport entre l'idolâtrie et le hametz ? L'idolâtrie, c'est adorer, se rendre serviteur de la puissance de la matière. On va le dire aujourd'hui, pour prendre des termes modernes, parce que l'idolâtrie, ça ne nous parle pas beaucoup, penser qu'on est esclave de l'économie. Penser qu'on est esclave du temps. Penser qu'on obéit aux circonstances. Pour sortir de Mitzrayim, quand les portes de Mitzrayim, quand les portes de l'Égypte sont ouvertes, le texte nous dit leurs pattes n'avaient pas encore levé.
Alors
les Israël étaient tentés de dire, bon, ben maintenant qu'on est libre, et si on attendait un petit peu plus que la pâte lève et qu'on puisse mettre au four une pâte qui a levé, qui est meilleure, qui nous fera du pain. C'est la tentation. Si un homme a la liberté devant lui,
oui,
et qu'il hésite, il attend, parce qu'il attend que la pâte lève, eh bien il ne pourra jamais sortir. La capacité pour Israël de sortir vers la liberté, c'est la capacité à ne pas attendre que la Pâque lève. Alors nous, chaque année, en se débarrassant du Hametz, on se débarrasse, selon l'expression du Maharal, du pouvoir du temps. Du poids et du pouvoir du temps qui nous cloue, qui nous demande d'attendre que la matière nous autorise à partir. Nous sommes libres. Nous n'allons pas attendre que les circonstances extérieures nous permettent d'être libres. Dès que nous en avons la possibilité, nous sortons. Nous abandonnons. Vous voyez, la Torah parle du Hametz déjà, de la Matzah, on va dire. Déjà bien avant, elle en parle à propos de Lot. Quand Lot a reçu les fameux invités qui étaient chez Abraham et qui lui ont annoncé la destruction de Sodome, il leur a servi des matzot. Midrash nous dit que c'était Pessah. Lot, avant la sortie d'Égypte, il a compris cet enjeu de la liberté que représente la matzah, la pâte qui lève ou la pâte qui ne lève pas. Mais au moment de sortir, c'est marqué Vaitmaam. Il a hésité.
Okay.
Il a hésité. Il y a un accent de cantillation, un accent tonique très très long, qui dit qu'à ce moment-là, il a hésité très longuement. Il n'arrivait pas à sortir. Il avait bien préparé des matos. Il avait compris tout ce qu'Abraham avait expliqué. Mais au moment de sortir, il était coincé. Il ne voulait pas lâcher ce qu'il a en confondant ce qu'il a et ce qu'il est. Se débarrasser du Hametz, c'est de se débarrasser de l'avoir qui nous aliène pour entrer dans l'avenir où on exprime ce que nous sommes véritablement. Cette recherche du Hametz, elle est en généralement une recherche spirituelle où on se débarrasse avec le Hametz de toutes ces habitudes qui nous aliènent pour sortir vers la liberté. Je pense que cette année, effectivement, il faut très fortement affirmer que nous sommes le peuple de la sortie d'Égypte, que nous célébrons la liberté, que cette liberté, elle hurle et elle réclame la liberté pour tous les otages, la liberté pour tous ceux qui sont enfermés dans l'esclavage. Et nous nous situons du côté de l'espérance, du côté du combat, du côté de l'avenir que le peuple d'Israël porte depuis la sortie de Mitzrayim jusqu'à nos jours.
Raoul, merci beaucoup encore une fois pour une interview comme d'habitude tellement riche et pleine de sens et de renforcement. On espère qu'Hachem viendra aussi cette année lui-même d'une main forte et d'un bras étendu nous délivrer. Je vous remercie encore mille fois pour cette interview. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, Rex Améach.
Alors à tout le monde, Pessah, Améach, le Kasher, que le Pessah soit à la fois évidemment, qu'il soit cachère, mais qu'il soit surtout joyeux, qu'il soit porteur de joie et d'espérance pour tous.
Merci,
Raoul. Très bien.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Y a pas de recette, toi t'en avais pas non plus. Personne t'avait prévenu, tu t'es battu comme t'as pu. Y a pas de recette quand l'enfer te serre la main. Abandonner cet humain, l'avenir c'est loin. Mais tu t'es mise à chanter, même pas par choix, comme à chaque chute, à chaque fois ça s'est imposé à toi. Chanter comme un enfant surpris, comme un instinct de survie, comme un instant de furie. Chanter pour accepter, exprimer, résister, avancer, progresser. Exister, chanter comme une résilience, une délivrance, chanter comme une évidence.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'eau. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
À quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute? À quel moment tu sais quelle est ta boussole? Quand la vie te punit, la musique te console. À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé? À quel moment il est ta respiration? Et à quel moment on en fait une chanson?
Si je me sens comme une enfant, j'ai déjà eu plusieurs vies. Je peux regarder devant en chantant ce qu'on m'a pris.
Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard et j'ai entendu ce piano au loin. Et moi aussi, sans vraiment le prévoir, naturellement ma voix l'a rejoint. On n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs. Comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'eau. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
Bonsoir Olivier Rafovic.
Bonsoir Yael.
Heureuse de vous retrouver pour votre résumé de la semaine au niveau sécuritaire, stratégique et militaire. Une semaine qui a été bien évidemment chargée encore plus que les autres semaines avec cette fameuse attaque iranienne. On va y revenir. Je voudrais tout d'abord avoir vos commentaires sur cet événement qui a eu lieu il y a à peu près 2 heures. Des missiles qui sont tirés depuis le sud Liban qui s'écrasent directement sur un centre communautaire du village arabe de Arav al-Aramcheh.
D'abord, c'est un événement très grave. Vous allez me dire
pourquoi il est grave et plus grave que les autres? Parce que d'abord, il y a beaucoup de blessés. On parle de 18 blessés, dont un dans un état très grave. Alors, nous parlons, un ou deux d'ailleurs, on n'a pas encore.
Oui, on a une personne en état grave et deux grièvement blessés aussi. Mais là, le premier cas est entre la vie et la mort. Ouais.
Mais ce qui est clair, c'est que le Hezbollah de nouveau attaque des villes et des villages israéliens le long de la frontière. Là, un village arabe, Arab el-Aramché, près de Mahalot, dans la région ouest de la frontière entre Israël et le Liban. Et beaucoup de blessés par certainement un drone suicide, certainement de fabrication iranienne, qui s'écrase sur ce maknas, ce centre communautaire, ce centre de loisirs, en général les centres qui existent dans tous les villages israéliens, où il y a des activités sportives, scolaires ou parascolaires. Et donc cette attaque a lieu de nouveau parmi les autres qui ont lieu tous les jours, et cela fait des victimes, des blessés graves, et ceci montre que le Hezbollah continue à attaquer Israël, et que si le Hezbollah n'arrête pas cette suite d'attaques qui empêche les Israéliens de revenir habiter chez eux, qui empêche Israël d'avoir une situation normale au nord, eh bien, s'il n'y a pas d'option diplomatique et politique qui marche, c'est-à-dire qui fait que le Hezbollah revient au nord de l'Itanie du fleuve, selon la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité 1701, eh bien, il n'est pas impossible que l'option militaire soit envisageable. En tout cas, situation très sérieuse, très grave, qui montre que le nord d'Israël est toujours sous les attaques constantes du Hezbollah. Et je le rappelle,
elle se multiplie. J'ai le sentiment que autant les capacités, ou peut-être je me trompe, hein, c'est une question que je vous pose. J'ai le sentiment, en tout cas, que les capacités stratégiques au niveau des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza sont beaucoup réduit, mais que au niveau du Hezbollah au sud du Liban, au contraire, les attaques s'intensifient.
Alors d'abord, il faut parler de l'attaque qui a lieu dimanche soir, durant l'attaque iranienne, où 100 missiles du Hezbollah ont touché Israël, le nord, également la région du Golan, puis d'autres missiles depuis dimanche soir. Le Hezbollah, effectivement, d'un côté intensifie ses frappes contre Israël. Israël a également répondu par l'élimination ciblée de plusieurs chefs de Radwan, qui est la branche, on va dire, élite, entre guillemets, de Hezbollah contre Israël. Et tout ça fait qu'il y a effectivement une espèce de jointure entre ce que fait l'Iran, est-ce que menace l'Iran de Téhéran contre Israël, et l'activité terroriste de Hezbollah, qui, quand même, il faut le dire, n'a pas tout fait ce que peut-être les Iraniens auraient aimé que le Hezbollah fasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des tirs au-delà, des tirs gravement sérieux, mais qui n'ont pas dépassé ce que nous connaissons depuis le début du conflit avec eux, depuis le 8 octobre. Mais nous sommes dans une situation toujours extrêmement sensible et tendue avec le Hezbollah.
Comment est-ce que vous expliquez d'ailleurs que l'attaque n'ait pas été plus significative? Est-ce que c'est une réussite de la défense aérienne israélienne et évidemment du partenariat avec les États-Unis et l'Angleterre, notamment, hein, en tout cas au niveau militaire, je parle. Ou alors est-ce que vous pensez que l'Iran, comme ils essayent de le dire, c'est peut-être a fait ça exprès pour ne pas justement enclencher une escalade supplémentaire?
Vous parlez de l'Iran ou du Hezbollah?
Non, là, je parle de l'Iran, vous parlez de... Ah, pardon, excusez-moi, on parle de deux attaques différentes, bien évidemment, ok. Donc le Hezbollah, oui, le Hezbollah.
Le Hezbollah est rentré dans la guerre contre Israël en voulant soutenir le Hamas, et donc il le fait au détriment de l'intérêt du Liban et des Libanais. Il le fait également en connexion, en coordination avec l'Iran. C'est l'Iran qui arme, qui finance, et qui dirige le Hezbollah, avec évidemment Nasrallah qui est à la tête du Hezbollah, mais Nasrallah écoute également Téhéran et les chefs de l'Iran dans l'action anti-israélienne. Non, ce qu'on peut dire, c'est que le Hezbollah s'est effectivement joint à l'attaque iranienne contre Israël, puisqu'ils ont attaqué avec 100 missiles, mais disons qu'ils auraient pu faire plus, je crois, du Hezbollah. Oui. Alors, est-ce que le Hezbollah cache son jeu? Est-ce que le Hezbollah essaie de masquer quelque chose? Alors, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'attaque contre le village de Arab el-Aramché dans la zone ouest de la Galilée, montre qu'il y a un danger gravissime du Hezbollah et que cette situation est intolérable et, comment dire, insupportable.
Alors, est-ce que vous envisagez, je vous pose la question à peu près chaque semaine et je sais très bien que vous allez me répondre et vous aurez raison que vous n'êtes pas prophète, mais comment est-ce que vous envisagez la suite des événements? Comme vous le disiez en début d'émission, les Israéliens ne veulent pas rentrer chez eux tant que la menace n'est pas écartée. Est-ce que on va devoir en arriver à une incursion terrestre au Liban, une attaque plus sévère de la part d'Israël ferait l'affaire, selon vous?
Encore une fois, on ne peut pas parler de ce qui va se passer. On peut parler de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que près de 100 000 Israéliens dans le nord d'Israël ne peuvent pas aller chez eux, vivre chez eux normalement, à cause des attaques et des menaces du Hezbollah. Ce site est impardonnable et par rapport au Hezbollah, on peut pas leur... Et surtout, est insupportable, pardon, si on sait le terme, insupportable. Et dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de solution politico-diplomatique avec les Américains et les Français, entre autres, eh bien l'option militaire reste une option envisageable, évidemment. Tout cela dépend de la position du gouvernement israélien. Mais il est clair qu'Israël ne peut pas, sur du long terme, continuer à avoir cette situation dramatique où Kiryat Shmona, Rabel Aram Shem et Tula, les kibbutz de Hanita, Manara dans la région Est, sont bombardés quotidiennement. Les poulaillers sont détruits, des milliers et des milliers de poules sont mortes. Alors vous allez me dire, c'est un épiphénomène? Non, parce que...
Ah non, c'est très grave.
Non, je dis que ce n'est pas du tout un épiphénomène, c'est très grave, parce qu'en fait, c'est l'économie également qui est atteinte. C'est toute ce qu'on appelle... Le tissu socio-économique, l'écosystème, si vous voulez, du nord d'Israël. Les gens ne peuvent pas aller se promener, il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas d'hôtellerie. Enfin, c'est une catastrophe.
Bien sûr.
Et cette catastrophe-là, aujourd'hui, elle est le résultant du Hezbollah qui continue à menacer Israël et à attaquer Israël avec des missiles et surtout son orgueil.
S'en orgueillit, oui, c'est revendique avec fierté, bien évidemment. Voilà. Et ça, de plus en plus, on constate ce phénomène et bien au contraire, ils veulent montrer aussi leur soutien quasiment inconditionnel envers Téhéran. Alors là, on est dans l'attente. J'avais vraiment une question qui me brûlait les lèvres cette semaine et allez, je serais ravie de vous la poser. Quel a été l'intérêt de l'Iran d'envoyer donc une quantité aussi importante de drones et de missiles, en sachant que s'ils avaient utilisé les proxys qu'ils ont dans la région, ça aurait semé beaucoup plus la panique. Tandis que on a reçu tous, comme tout le pays a reçu, les missiles sont en route, ils sont déjà partis, ils ont encore à peu près un quart d'heure de vol. On en est donc. Personne n'a été réellement abasourdi de recevoir cette quantité de missiles. Est-ce que ça valait le coup de faire ça en sachant que le délai de vol, même s'il peut être rapide pour les missiles balistiques, est-ce que ça valait vraiment le coup d'envoyer ces missiles depuis le territoire iranien?
Je veux dire une chose que les gens peut-être ne comprennent pas ou ne voient pas. Supposons un instant qu'Israël n'a pas ce parapluie anti-missile ou anti-aérien que nous possédons. Ces 330 missiles qui arrivent et drones et missiles de croisière qui arrivent sur Israël vont faire des milliers de morts. Et les dégâts, même s'ils viennent de très loin, même s'il y a un temps de vol important, nous sommes dans une situation d'attaque avec la détermination, la volonté de faire des dégâts, de faire des morts. Le fait que nous ayons ce parapluie anti-missile avec Dôme de fer, avec... la fronde de David avec les missions anti-missiles Arrow, et évidemment notre aviation extraordinaire avec les aviations de pays alliés qui vont aider dans cette action d'interception au pluriel, fait que, comme vous savez, 99% des objets ennemis ont été détruits. Mais regardez ce qui se passe en Ukraine. Dans d'autres pays, lorsqu'il n'y a pas de protection aérienne de qualité, c'est des centaines de morts, voire des milliers de morts, destruction de villes. Et là, c'était absolument un autre scénario auquel on aurait pu rencontrer. Donc, ne soyons pas dans la sous-estimation de ce qui est passé.
Mais ils savent très bien qu'on a une défense aérienne. Je veux dire,
oui, mais les Iraniens, dans cette attaque-là, ont décidé de baisser les masques. et de ne plus utiliser seulement leur proxy pour attaquer Israël, ce qu'ils font depuis des années et des années. Et ceci est un changement radical de paradigme. D'ailleurs, nous voyons depuis dimanche que les Iraniens continuent à menacer Israël, avec des menaces très très graves, très très sérieuses. Et Israël, nous écoutons ces menaces, nous les prenons également sérieusement. Mm-hmm. Et le gouvernement israélien, avec l'armée israélienne, font les, ce qu'on appelle les estimations, les assessments, les prises en compte de tout ce qui se passe, pour ensuite, oui ou non, décider de la suite. Mais l'attaque iranienne est un changement de paradigme du conflit entre l'État d'Israël et l'Iran.
Et la riposte israélienne est aussi un changement de paradigme, selon vous ? La riposte que l'on attend, hein ?
Vous savez, depuis 2-3 jours, on me pose ces questions à moi et à d'autres, évidemment, sur la riposte, c'est classique. Ma réponse est très claire. Je ne veux en aucun cas aujourd'hui aborder ce sujet, ni avec vous, ni avec personne d'autre. C'est une décision qui appartient seulement, alors nous parlons, à la prérogative du gouvernement israélien, et Tzal et les forces de sécurité seront...
Bon, j'ai compris le message et je respecte tout à fait, je le dis pour ceux de nos auditeurs qui ne le sauraient pas, vous êtes vous-même colonel de réserve et il y a vraisemblablement des choses que vous n'êtes pas en mesure de nous dévoiler, c'est tout à votre honneur bien évidemment, donc j'arrête de poser cette question. J'ai le droit d'essayer, mais tenons les pouces en tout cas pour Tzahal. Je voudrais qu'on termine cet entretien avec la situation à Gaza. L'attaque, l'incursion à Rafah, à Rafah et évidemment le sort de nos otages à cette avant-veille de Pessah.
Alors nous parlons de la guerre contre le Hamas n'est pas terminée. Et vous entendez, n'est-ce pas ?
Oui, bien sûr, bien sûr.
La guerre contre le Hamas n'est pas terminée. Il y a encore des opérations actuellement dans la région des ce qu'on appelle des Mahanot Hamas, les centres de la bande de Gaza avec la région de Nusayrat.
Oui.
Des opérations qui sont reliées à la division 162 qui opère dans le centre de la bande de Gaza. Et donc cette guerre n'est pas terminée. Le Hamas n'est pas encore totalement détruit ni démantelé, donc nous continuons. Il y a encore la zone de Rafah, comme vous savez. Ce qui se passe, c'est qu'en parallèle de cela, nous avons augmenté de manière sensible l'entrée de camions humanitaires et le dossier otage, du retour des otages, reste la priorité absolue d'Israël. Et vous savez qu'il y a eu des discussions, qu'il y a encore des discussions avec ce qu'on appelle des... avec l'Égypte, avec le Qatar, avec
les médiateurs, oui.
Tout à fait. On peut mettre la frotte en hébreu, tout à fait, les médiateurs. Et alors où nous parlons, je ne peux malheureusement pas donner de nouvelles.
Les Israéliens ont le sentiment, et peut-être ont-ils raison, que pas forcément tout est mis en œuvre comme il le faut, parce que voilà, à 194 jours du début de la guerre et de leur prise d'otages, on a le sentiment que s'ils avaient dû revenir, ils seraient déjà revenus maintenant.
Non, il ne faut pas dire ça, parce que la preuve, nous sommes face, nous n'avons pas un groupe terroriste d'une cruauté absolue. Ils jouent avec la vie des otages, avec la vie des familles d'otages, puisqu'ils mettent des pressions psychologiques horribles. Je vous rappelle ces films ou ces vidéos qui étaient sortis de temps en temps avec des bribes d'images, des bribes d'informations. Il y a ici un jeu cruel, diabolique de la part du Hamas au sujet des otages. Donc, on peut évidemment demander à l'État d'Israël des choses. On doit faire abstraction de l'ennemi qui est en face de nous, qui est celui qui a pris les otages, nous n'oublions pas, qui a kidnappé des femmes, des enfants, des vieillards, qui a tué 1200 personnes de manière horrible, qui a violé, qui a brûlé. Bon, tout ça réunit, c'est que, évidemment, que la population israélienne se tourne vers son gouvernement et vers son armée, c'est normal, puisque nous sommes l'armée d'Israël et le gouvernement israélien. Mais en face de nous, il y a des gens qui ont kidnappé et qui utilisent la vie des otages pour mener une autre guerre, une guerre psychologique, une guerre dans la guerre, une guerre pour obtenir des choses. Et en prenant également en compte que le Hamas ment, que le Hamas est tout sauf fiable, donc ils sont extrêmement inconscients. Lorsque le Hamas dit quelque chose, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit, et est-ce qu'il est vraiment derrière ce qu'il dit dans tout ce récit, c'est qu'effectivement, c'est un dossier très sensible, qui est géré, pas par hasard, par le Mossad, par le Shabak, et par le général Salanon, qui est un ancien également des services de sécurité, et qui est quelqu'un de brillantissime. Ses équipes, avec d'autres personnes, gèrent un dossier qui est d'une sensibilité absolue et d'une difficulté.
Ben oui.
Qui est en face de nous, c'est le Hamas. Et le Hamas, c'est tout sauf des gens sympathiques.
Mais
ils jouent avec la vie des otages, avec la vie des Israéliens. Et on aurait tous aimé qu'à la veille de Pessah, tous les otages reviennent à la maison.
Oui.
Et alors, nous parlons, ce n'est pas encore le cas.
Ça va être très difficile hein, de célébrer cette fête de Pessah, cette fête de la liberté, en ayant toutes ces chaises vides. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'au moins, pour les civils israéliens, en tout cas, cette période passe le plus paisiblement possible. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, pour cette analyse. Et on vous retrouve la semaine prochaine sur Canon Français.
Merci beaucoup. Et avec votre permission, je voudrais souhaiter vraiment un Chag Pessah. Un Chag Pessah Kasher de Samer pour tous les bénis Israël, en Israël et en dehors d'Israël, et souhaiter également, comme nous tous, nous le souhaitons, le retour de tous les otages à la maison, tous,
le plus rapidement
possible à la maison, les familles les attendent, tout Israël les attend, et Israël continuera à tout faire pour que les otages soient à la maison.
Olivier Rafovitch, merci beaucoup.
Les parois de ma vie sont lisses, m'y accroche mais je glisse, lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge, tout tissu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit. Sa vie, péché contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissant le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées, mourir d'aimer. Que notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi. Qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Mon cœur se prend, le mien se donne. Et ma route est déjà tracée. Mourir.